Au micro, Idrissa Sidoudia, bonjour. Dans cette édition, la présidentielle américaine, on est maintenant à un jour de cette élection du 3 novembre, et les candidats républicains et démocrates, le président Donald Trump et son rival Joe Biden, intensifient leurs efforts. Ce sera dans moins de 5 minutes avec Jean-Roger Bion. En Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir a mis en garde dimanche l'opposition qui ne reconnaît pas la présidentielle du 31 octobre contre toute tentative de déstabilisation, tandis que les premiers résultats donnent une avance écrasante au président sortant Alassane Ouattara, candidat à un troisième mandat controversé. Nous y reviendrons en seconde partie de cette édition avec nos correspondants sur place, Aïcha Diarra et Siriki Barrault. Autre scrutin appelé à entériner une révision constitutionnelle censée fonder une nouvelle république, les Algériens ont massivement boycotté dimanche un référendum qui s'est tenu en l'absence de son initiateur, le président Abdelmadjid Tebboune, hospitalisé à l'étranger. Le taux de participation final s'est établi à 23,7%. Au Sénégal, le président Macky Sall a nommé dimanche un nouveau gouvernement d'ouverture et d'unité dans lequel entrent des opposants. Nous retrouverons notre correspondant à Dakar, Sédina Abagué. Les djihadistes de Boko Haram ont tué 12 personnes et en ont enlevé 7 dimanche lors de l'attaque d'un village proche de Chibok dans le nord-est du Nigeria, selon des sources locales. Les djihadistes ont attaqué le village de Takoulachi à 18 km de Chibok, tirant sur ses habitants et incendiant des habitations. Au Congo-Brazzaville, rencontre pour la deuxième fois en moins d'une semaine entre le président Denis Sassou Nguesso et son voisin de la RDC, Félix Tshisekedi. Nous aurons un compte-rendu de notre correspondant Arsène Séverin. Pendant ce temps, en République démocratique du Congo, où l'on déplore 308 décès pour 11 330 cas de coronavirus, les voyageurs en provenance de l'étranger sont testés à leur descente d'avion depuis samedi, et l'ambassade de France a annoncé la fermeture pour une semaine des écoles françaises à Kinshasa afin d'éviter l'importation des cas de COVID-19 d'Europe où la deuxième vague fait des ravages. Frappés par cette deuxième vague, les pays européens renforcent leurs restrictions, notamment l'Allemagne et la Belgique ce lundi, non sans provoquer ressentiment voire colère au sein de leur population, comme en Espagne ou en Italie. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a annoncé dimanche soir qu'il s'était placé en quarantaine après avoir été en contact avec une personne testée positive au COVID-19, précisant qu'il n'avait pas de symptômes. Il est extrêmement important que nous nous conformions tous aux directives sanitaires. C'est ainsi que nous briserons les chaînes de transmission du COVID-19, supprimerons le virus et protégerons les systèmes de santé, a ajouté le patron de l'Organisation mondiale de la santé. Au moins 10 personnes ont péri dimanche aux Philippines frappées par le typhon Goni, le plus puissant de l'année, les autorités faisant état de conditions catastrophiques dans certaines régions après avoir évacué près de 400 000 habitants. Et en Turquie, les secouristes ont continué dimanche à fouiller les décombres d'immeubles effondrés dans l'ouest du pays, avec de moins en moins d'espoir de retrouver des survivants au surlendemain d'un puissant séisme qui a fait plus de 70 morts. Le Québec était sous le choc dimanche après qu'un homme de 24 ans armé d'un sabre japonais et portant un déguisement médiéval a tué 2 personnes et en a blessé 5 autres lors de la soirée d'Halloween dans le centre historique de la ville de Québec, pour une raison encore inconnue. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC. La suite de nos informations, tout d'abord, la présidentielle américaine du 3 novembre. Le président républicain Donald Trump a encore emballé un peu plus dimanche, à 48 heures du scrutin, le rythme de sa campagne pour tenter de rattraper son rival démocrate Joe Biden, concentré lui sur un état crucial, la Pennsylvanie. Le point avec Jean-Roger Bion.
Joe Biden, qui a axé l'essentiel de sa campagne sur la gestion contestée de la crise du coronavirus, le président sortant a fait campagne dimanche en Pennsylvanie, son état natal. Il devrait encore se concentrer sur cet état ce lundi et il a ajouté à son programme un arrêt dans l'Ohio, signe que son équipe juge qu'il peut remporter cet autre état. Par ailleurs, l'ancien président Barack Obama, très présent dans cette dernière ligne droite, se rend aujourd'hui à Atlanta en Géorgie et à Miami en Floride pour faire soutenir la candidature de celui qui fut son vice-président pendant 8 ans. Donald Trump, lui, a prévu pas moins de 10 réunions publiques en 2 jours, avec pour la seule journée de lundi, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie, le Wisconsin et un retour dans le Michigan. Donald Trump a lancé dimanche le sprint final de sa campagne dans 2 des États les plus disputés, l'Iowa et le Michigan, pour tenter de faire mentir les sondages qui continuent de le donner battu par Joe Biden. Lors de sa première apparition publique de la journée dimanche à Washington, au nord de Détroit, M. Trump s'est adressé à une foule animée dans le froid matinal, répondant au cri de « On vous aime », il a déclaré « Je vous aime aussi, si ce n'était pas le cas, je ne serais pas là parce qu'il gèle par ici ». Le candidat républicain a assuré qu'il remporterait de nouveau la présidentielle dans le Michigan, mettant en avant son action en faveur des créations d'emplois dans l'automobile, un sujet clé dans cet État. À Dubuque, dans l'Iowa, M. Trump s'est adressé aux agriculteurs de cet État, gros producteurs de maïs, en assurant une nouvelle fois qu'il s'apprêtait à y remporter le scrutin comme il y a 4 ans. Samedi à Newton, en Pennsylvanie, Donald Trump a déploré que l'écart puisse être aussi mince entre les 2 candidats. Joe Biden conserve une avance confortable dans les sondages sur les intentions de vote à l'échelle nationale, mais les scores sont bien plus serrés dans les États les plus disputés, susceptible de faire basculer d'un côté comme de l'autre le collège électoral des 270 grands électeurs qui élira formellement le prochain président au mois de janvier. L'issue du scrutin est ainsi indécise en Floride, en Caroline du Nord et dans l'Arizona. L'élection s'annonce par ailleurs inhabituellement serrée au Texas, un État longtemps considéré comme acquis au camp républicain. Plus de 93 millions d'électeurs ont déjà voté par anticipation ou par correspondance, à un jour seulement du scrutin. Jean-Roger Bion, VOA, Washington.
Dans le reste de l'actualité, au Sénégal, le président Macky Sall a procédé ce dimanche, 1er novembre, à la nomination d'un nouveau gouvernement. Le poste de Premier ministre tant attendu n'est toujours pas de retour. Surprise cependant avec l'arrivée de l'opposant Idrissa Seck à la tête du Conseil économique, social et environnemental. Notre correspondant à Dakar, Sedina Abagui.
Arrivé en deuxième position de la dernière présidentielle et considéré par beaucoup comme le leader de l'opposition sénégalaise, Idrissa Seck a surpris tout le monde en rejoignant la mouvance présidentielle. Il occupe maintenant le poste de président du Conseil économique, social et environnemental. L'ancien dauphin du président Abdoulaye Wade bénéficie également de 2 postes au sein du gouvernement. Un attelage gouvernemental qui accueille aussi Oumar Sarr, ancien numéro 2 du Parti démocratique sénégalais, et Aissata Tall Sall, qui devient la première femme ministre des Affaires étrangères du Sénégal. On retiendra également l'éviction de tous les ténors pressentis pour succéder à Macky Sall en 2024. Ainsi, Mohamedou Makhtar Cissé, qui occupait le poste de ministre du Pétrole et des Énergies, Alioune Ndiaye, qui était ministre de l'Intérieur, et Amadou Ba, qui était ministre des Affaires étrangères, sont tous remerciés. Le nouveau gouvernement compte 33 ministres et 4 secrétaires d'État. Il tiendra son premier conseil des ministres ce mercredi à 10h au Palais de la République du Sénégal. À Dakar, Sedina Abagui pour VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso a reçu pour la deuxième fois en moins d'une semaine son homologue de la RDC, Félix Tshisekedi, à Oyo, pour évoquer la situation politique en République démocratique du Congo. Les deux leaders n'ont pas fait de déclaration à la presse, mais ils ont soutenu dans un communiqué conjoint l'idée de consultation politique que le président Tshisekedi a lancée à Kinshasa. Des détails avec Arsène Séverin, qui a fait le déplacement d'Oyo.
Les présidents Félix Tshisekedi et Sassou Nguesso ont appelé dimanche à Oyo, une ville située à quelques 400 km au nord de Brazzaville, des acteurs politiques et de la société civile de la RDC à tout mettre en œuvre en vue de préserver les acquis démocratiques et la cohésion nationale. Félix Tshisekedi, qui a quitté Oyo hier dans la soirée, devait lancer ce lundi à Kinshasa des consultations politiques. Au cours de leur rencontre à Oyo, les deux chefs d'État, assistés du président bissau-guinéen Oumaro Mbalo, ont condamné l'activisme des groupes armés et des forces négatives à l'est de la RDC. Dans un communiqué conjoint, les chefs d'État ont salué les efforts de rétablissement de la paix menés par les forces armées de la République démocratique du Congo et les soldats des Nations Unies. Depuis Oyo, Arsène Séverin, VO Afrique.
Les négociations entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie concernant le barrage sur le Nil construit par Addis Abeba ont repris dimanche. Elles doivent durer une semaine, Abdourahmane Dia.
Ces nouvelles discussions interministérielles signent la reprise du dialogue entre les trois pays au point mort depuis 3 mois sur le projet éthiopien du grand barrage de la Renaissance, lancé en 2011 et destiné à devenir la plus grande installation hydroélectrique d'Afrique. Tenue par visioconférence, cette session de négociation va durer une semaine, avait tweeté jeudi le ministère de l'Irrigation éthiopien. L'installation hydroélectrique suscite des tensions en particulier avec l'Égypte, pays de plus de 100 millions d'habitants qui dépend à 97% du Nil pour son approvisionnement en eau. Le Nil, qui coule sur quelques 6000 km, est une source d'approvisionnement en eau et en électricité essentielle pour une dizaine de pays d'Afrique de l'Est. Le Caire et Khartoum, en aval du fleuve, souhaitent un accord légalement contraignant, notamment sur la gestion du barrage. Addis Abeba, qui juge le barrage essentiel à son développement, y est réticente. Les tensions s'étaient exacerbées cet été, l'Égypte ayant adressé en juin ses griefs au Conseil de sécurité de l'ONU.
Les sports à présent avec Élisée Onfatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football préparatif CHAN 2021, le Niger accueille un tournoi.
Oui, et trois sélections s'affrontent à Niamey lors de la deuxième journée. Le Maroc a eu raison du Mali, score 1-0, une réalisation d'Ayoub El Kabi. Les Lions de l'Atlas prennent la tête avec 3 points devant le Niger et le Mali qui ont 1 point chacun. Prochaine journée le mercredi et le Niger sera face au Maroc au Cameroun. Le Maroc jouera dans le groupe C en compagnie du Togo, du Rwanda et de l'Ouganda. Le Niger figurera dans le groupe B avec le Congo, la Libye et la RD Congo. Tandis que le Mali évoluera dans le groupe A avec le pays hôte, le Cameroun, le Zimbabwe et le Burkina Faso.
Afrique du Sud, les demi-finales de la Coupe nationale.
Tout à fait, et on a eu droit au match aller. Hier, Supersport United a été accroché à domicile 1-1 par les Celtics de Bloemfontein. La veille, Orlando Pirates sort largement vainqueur 3-0 du début de ce week-end face à Kaizer Chiefs. Les matchs retour auront lieu le week-end prochain.
Élisée, on fait maintenant le point de quelques championnats. Le football a repris au Cameroun.
Exactement, Idrissa, avec la première journée dans un contexte particulier, avec une crise entre la fédération et la ligue professionnelle sur le terrain. Le champion sortant, le Coton Sport de Garoua, a bien démarré en venant à bout de Panthères sportives de Ndé, score 2-0. Pour la suite de cette première journée, on aura entre autres Bamboutous, USM de Lune, Canon de Yaoundé contre FC Fouché, Nousta jouera Union sportive de Douala et puis Stade Renard affrontera As de Douala.
Au Burkina, on jouait la 8e journée du Faso Foot.
Et le leader, l'équipe des militaires, USFA, conforte sa place de leader suite à sa victoire de 2-0 devant High Club de Kadiogo. Son dauphin, l'Union sportive de Ouagadougou, est allé battre 3-1 Asfa Yenenga. Pour le reste, hier, Ice Police a battu Étoile Filante 2-1. Victoire également de Salitas 1-0 devant l'Ice Douane. Et puis, Raimo a été accroché à domicile par Vitesse FC, score 1-0.
En Guinée, le championnat en était à sa 3e journée.
Félo Stade de l'Abbé, largement vainqueur 4-1 de Santoba, prend la première place avec 6 points devant Afia de Conakry, tenu en échec 0-0 par le club de Kamsa. Par contre, début difficile pour l'AS Kaloum, battu une fois encore et cette fois 1-0 par Flamme et Olympique. Le club de Bouba s'empile compte 3 points. Le champion en titre, Oroya, jouera son premier match mercredi prochain face à Wakria.
En RDC, en 8 journées, Maniema Union reste seul en tête.
Le club de Kindou, qualifié pour la Coupe de la CAF, réalise un bon début de saison en totalisant 15 points suite à sa victoire à Simba 2-0. L'ASV Club partage la seconde place au classement avec Renaissance du Congo après avoir battu 3-1 Lumumbashi Sport. A noter que le tout-puissant Mazembe de Lumumbashi est classé 4e avec 9 points.
VOA Afrique en votre compagnie, Idrissa Sedoukia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir a mis en garde dimanche l'opposition qui ne reconnaît pas l'élection présidentielle contre, je cite, toute tentative de déstabilisation. Les premiers résultats donnés dimanche au lendemain du scrutin donne sans surprise une avance écrasante au président sortant Alassane Ouattara en quête d'un troisième mandat controversé. Le point avec Aïcha Diarra à Boaké.
Pascal, 117.
Les résultats de ces élections présidentielles ont commencé à être connus région par région. Ces élections boycottées par les deux principaux candidats de l'opposition ont été marquées par des incidents dans certaines localités du pays. Répondant à l'appel au boycott de l'opposition, des unes ont été saccagées, des routes barrées et des véhicules incendiés. Certains ont pu voter dans ce climat tendu. Écoutons cet électeur témoin d'un de ces incidents.
C'est moi-même qui étais en ce moment en train de voter. Ils sont venus pour prendre les urnes. On dit pas qu'ils vont prendre les urnes. On les empêchait, ils ont refusé, ils ont pris les urnes. Maintenant, dans le groupe était là, ils ont commencé à nous lapider avec les cailloux.
En dépit de ces incidents, le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly Kubiya, rassure.
Il y a des zones qui ont connu des troubles, mais ce sont des troubles mineurs. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais bien vous le dire, nous avons 22 381 bureaux de vote. Dans ces 22 381 bureaux de vote, nous avons à peine, je le dis bien à peine, 30 à 40 bureaux de vote qui sont saccagés.
L'opposition ivoirienne, de par la voix de Pascal Afingesson, ne reconnaît pas ce scrutin qu'elle trouve entaché de nombreuses irrégularités.
Les partis et groupements politiques de l'opposition ivoirienne ne reconnaissent pas l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Constate la fin du mandat du président Alassane Ouattara depuis le 31 octobre 2020 et invite la communauté internationale à en prendre acte. En conséquence, les partis et groupements politiques de l'opposition appellent à l'ouverture d'une transition civile afin de créer les conditions d'une élection présidentielle juste, transparente et inclusive.
Adama Big Togo, directeur exécutif du RHDP au pouvoir, a réagi à cette sortie de l'opposition.
Nous, RHDP, au nom donc de cette constitution, parti responsable, respectant non seulement notre constitution, mais respectant l'Ivoirien, tout simplement, appelons le gouvernement à prendre toute sa place pour que définitivement les Ivoiriens ne soient pas troublés dans leur quiétude par ce comportement irresponsable de l'ensemble des acteurs politiques conduits par le sieur Afi, tantôt par Madame Simone, tantôt par Djikaoué. Tel est le désordre qui les caractérise.
Ce dimanche, au lendemain des élections, les troubles ont continué dans certaines localités de la Côte d'Ivoire. Un couvre-feu a d'ailleurs été décrété à Yamoussoukro depuis ce dimanche soir de 21h à 6h du matin. Aïcha Diarra à Boaké pour VOA Afrique.
L'élection présidentielle du 31 octobre en Côte d'Ivoire a enregistré des tensions et des violences dans quelques villes du pays suite à l'appel à la désobéissance civile lancé par l'opposition. Au lendemain de ce scrutin présidentiel, un calme précaire règne dans l'ensemble du pays. À Boaké, ex-capitale de la rébellion dirigée par Guillaume Soro, aujourd'hui farouche opposant à Alassane Ouattara, le vote s'est tenu sans réel incident. La situation est relativement calme dans cette ville, où la peur et l'espoir se ressentent chez les populations, nous dit notre correspondant sur place à Boaké, Siriki Barrault.
Dans la petite cafétéria de l'Océanie, les jeunes discutent de tout. De tout, sauf de l'actualité politique. Les élections sont terminées et eux voudraient, à présent, passer à autre chose. Tidiane vend des cigarettes. Il préfère rester optimiste.
Ça n'a rien. On a voté tranquillement, quoi. Donc, les résultats aussi, on espère que ça va se passer tranquillement. On a assez souffert. Donc, il est temps que les choses se déroulent bien.
Après avoir passé une bonne partie de son enfance dans une ville contrôlée par l'ancienne rébellion, Cheikh Oumar, 26 ans, pense que l'heure est désormais à la maturité et à la prise de conscience des jeunes.
Boaké a fait preuve de maturité. Habituellement, quand il y a quelque chose, peu importe ce qui se passe, on est les premiers à faire le cafouillage. Mais cette fois-ci, on a vraiment fait preuve de grande maturité. On a été les plus responsables.
Dans ce climat électoral empreint de tension, les réseaux sociaux offrent un terrain propice à la divulgation de fake news. Cheikh Oumar a tenu à nous partager son expérience.
Je suis d'origine sénégalaise. Parmi nous, il y a des joulas, il y a des baoulés, il y a tout. Mais on est là, on est assis en paix, vous avez trouvé, on cause tranquillement. Il y a ma grande sœur et mon papa qui sont au Sénégal. Mais ce matin, à 6h du matin, ma grande sœur m'a appelé sur WhatsApp. Ils lui ont dit que les gens avaient commencé à brûler des maisons et tout, que depuis hier nuit, il n'y a pas de calme à Boaké. Nous, au niveau d'ici, nous, on sait qu'il n'y a rien, on sait qu'on est sans pression. Mais ils n'ont qu'à penser à ceux qui ont de la famille à l'extérieur.
L'issue de ce scrutin reste incertaine, avec l'opposition qui se félicite du respect de l'appel à la désobéissance civile par les populations dans leur majorité. Une opposition qui appelle également à un gouvernement de transition, car selon elle, Alassane Ouattara n'est plus le président de la Côte d'Ivoire. Siriki Barrault, Boaké, VOA Afrique.
Le processus électoral en cours en Centrafrique entre dans une phase décisive. Le dépôt des candidatures à la présidentielle et aux législatives a été ouvert ce dimanche. Juste pour cette journée, une dizaine de candidats ont déposé leur candidature pour la présidentielle. De Bangui, notre correspondant Freeman Sipila.
Le siège de l'Autorité nationale des élections a été pris d'assaut par les candidats aux premières heures de la matinée du dimanche 1er novembre. De vraies batailles ont eu lieu entre les candidats à la présidence de la République autour du numéro 1. Finalement, c'est le président Faustin Archange Touadéra, candidat à sa propre succession, qui décroche le numéro 1. Simplice Mathieu Sarandi, son directeur national de campagne.
J'ai agi en tant que mandataire. C'est ce mandat qui m'a permis de venir déposer ces dossiers de candidature à l'élection présidentielle. Je l'ai fait, un reçu m'a été remis, il est le candidat numéro 1. Le moment est venu pour nous maintenant de nous organiser pour mener des élections que nous souhaitons tous libres, transparentes et apaisées.
À défaut du candidat numéro 1, comme ce fut le cas en 2015 et 2016, le chef de file de l'opposition, Anissé Georges Dologuélé, doit désormais se contenter du numéro 2.
Il y a eu une espèce de bagarre depuis ce matin, depuis la nuit, pour ce poste numéro 1. Je pense que ce n'est pas le numéro 1 qui gagne forcément les élections. La preuve, j'étais numéro 1 la dernière fois. Je n'ai pas gagné. Donc, j'ai bien voulu céder ce numéro 1 tant convoité pour avoir le numéro 2.
Un autre poids lourd dans la scène politique, Martin Ziguélé, candidat du MLPC, sorti troisième lors des élections de 2015-2016, est candidat numéro 3. Bernard Dila, son directeur national de campagne.
Mais c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai déposé au nom du président du MLPC, Martin Ziguele, sa candidature à la présidentielle 2020-2021. Nous attendons ce moment avec beaucoup de palpitations parce que notre pays, en ce moment-là, a besoin d'un changement réel. Et nous, nous voulons proposer ce changement-là au peuple centrafricain.
Plusieurs autres candidats comme Sylvain Papassé, Augustin Agou, Serge Diori et Crépin Boligumba ont aussi fait acte de candidature. Crépin Boligumba, qui s'est vu attribuer le numéro 7, reste confiant.
Comme un signe du destin, je suis numéro 7. Quelqu'un disait ici comme Cristiano Ronaldo, mais moi qui suis croyant, c'est le chiffre parfait. Pour ceux qui connaissent un peu la Bible, c'est un hasard qui n'en est pas un. Pour parler au nom du peuple centrafricain, il faut être élu. Et pour être élu, il faut être candidat. Pour être candidat, il faut déposer sa déclaration de candidature avec toutes les pièces afférentes. Je le fais aujourd'hui avec joie, mais avec sens du devoir.
Pour toute la matinée du dimanche, aucune candidature féminine n'était enregistrée, même si officiellement trois femmes se sont déclarées candidates à la présidentielle. Les dossiers de candidature, une fois réceptionnés par l'autorité nationale des élections, sont automatiquement transférés à la Cour constitutionnelle pour validation. Le dépôt de candidature, ouvert ce 1er novembre, sera clos le 10 novembre. Le premier tour de la présidentielle et des législatives en Centrafrique est prévu le 27 décembre 2020. Fumansi Pila Bongi pour VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République Centrafricaine, à Bangui sur le 101.7 FM.
Les regards sont tournés en ce moment vers les États-Unis qui choisissent ce 3 novembre leur président pour les 4 prochaines années. Cette présidentielle est l'une des plus suivies dans le monde actuellement et les Togolais ne font pas exception. Selon ces derniers, quel que soit le président élu, cela ne changerait en rien la politique américaine envers l'Afrique. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
Le prochain président des États-Unis d'Amérique sera connu ce mardi soir. Ces élections américaines passionnent les débats à Lomé, mais sans grande attente de la part des Togolais. Avec l'épisode de l'ancien président Barack Obama, ces Togolais ont pris conscience que le futur locataire de la Maison Blanche n'aura pas une réelle influence sur la politique africaine de l'Amérique.
Que ce soit Donald Trump ou Joe Biden qui soit élu à la présidence américaine, leur politique vers l'Afrique, ce sera toujours dans l'intérêt des États-Unis.
Peu importe le prochain locataire de la Maison Blanche, cela ne va pas changer dans le fond. Prenons le cas par exemple d'un Donald Trump qui a traité les pays africains de shithole countries, c'est-à-dire des pays de mer. Toutefois, les missions des États-Unis en Afrique n'ont pas vraiment changé.
Les résultats de ces élections détermineront certainement la politique américaine vis-à-vis de l'Afrique, tout en tenant compte de ce que le système américain permet. Au temps du président Obama, le monde attendait une grande implication dans les politiques des pays africains. Mais les changements n'ont pas été aussi profonds qu'on le prévoyait.
Germain Dodon estime pour sa part que l'Afrique ne pèse pas suffisamment dans la balance pour espérer influer sur la politique étrangère américaine.
L'Afrique est un paramètre d'ajustement quand il s'agit de la géopolitique et de la géostratégie pour le moment. Juste un exemple. Lorsque le Togo avait siégé au Conseil de sécurité, le secrétaire d'État d'alors, Mme Clinton, s'est déplacée personnellement pour passer au Togo. C'était pour s'assurer du vote du Togo lors d'un sujet précis qui concernait l'État d'Israël. L'Amérique, toujours l'Amérique pour les Américains.
Quel que soit Alpha, les résultats de ces élections sont très attendus, même ici au Togo.
Une chose est certaine, Trump réélu, nous serons dans la continuité de ce que nous voyons aujourd'hui. Et certainement plus. Joe Biden élu, certainement qu'il y aura un changement, mais la question est dans quel sens. Biden sera peut-être dans la logique Obama.
Ayoavi Atiso s'abstient de se prononcer sur le nom du futur président américain, en ayant à l'esprit le duel Clinton-Trump de 2016.
Les Américains sont surprenants, vraiment surprenants. En 2016, tout donnait, il arrive vainqueur, et bon... Donald Trump ou Joe Biden, que le meilleur gagne. Dans tous les cas, je sais que les Américains choisiront celui qui défendra mieux leurs intérêts. Alors je leur souhaite de très bonnes élections.
Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
VOA Afrique vous invite à suivre toute l'actualité sur les élections américaines 2020 et la course à la Maison Blanche. Des reportages, des analyses, des témoignages et des éditions spéciales qui vous font vivre tous les jours et en temps réel le déroulement de la présidentielle américaine du 3 novembre. Vous pouvez aussi participer à la conversation et réagir depuis votre pays. Le président Donald Trump sera-t-il réélu? Le démocrate Joe Biden pourra-t-il gagner face à son rival républicain? Rendez-vous sur votre fréquence de VOA Afrique et sur nos stations partenaires. Retrouvez également les sujets traités sur votre site voaafrique.com et sur Facebook.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebuya et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.